souci.
Mais sinon, oui, tu me posais la question tout à l'heure, ouais, de mon état d'esprit par rapport au Covid, là. C'est vrai que bon, bah, c'est pour moi, c'est un élément naturel. Et encore une fois, eh ben, on lutte contre les éléments naturels. Bon, ça se comprend. C'est vrai, on veut pas mourir, on veut pas être malade, on veut pas avoir froid, on veut pas subir un tremblement de terre, un incendie, un machin. Bon, mais voilà. Bon, bah, mais où le problème, c'est où ça nous mène, ça. Ça nous mène qu'on va être 10 milliards ou plus. Et bon, ben, à un moment donné, si on veut vivre autrement que dans des cavernes, eh ben, 10 milliards, ce sera pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Donc, voilà, puis on s'est trop déconnecté des lois naturelles. Bon, les microbes, on en bouffe en montagne, mais on en bouffe avec un troupeau, avec les animaux, avec les chiens, avec les chevaux. On a des bactéries, mais on a tout ce qu'on veut. Et bon, ben, on s'immunise, et puis voilà. Ouais,
non, là, c'est vraiment chaud, apparemment. Quand
on Moi, je suis contre lutter contre des virus, en plus, très peu virulents, comme ça. Je suis contre. Et en plus, on va voir. Je crois que, en plus, notre ministre en a parlé il n'y a pas une heure à l'Assemblée nationale. Là, mes parents écoutaient. Ils ont peur des conséquences négatives du confinement. Ils ne veulent pas que ça dure trop longtemps parce qu'ils sont en train de comprendre qu'il y a des énormes conséquences. Moi, je ne suis pas sûr du tout que c'était. Je ne suis pas persuadé que c'était la bonne solution. Mais bon, voilà, j'ai respecté. Après, j'ai respecté les règles. Voilà, bon. Mais voilà, je ne suis pas sûr. Et puis, de mettre autant d'énergie avec autant de conséquences négatives pour lutter contre un virus qui est finalement pas plus virulent qu'une grippe. La seule différence, c'est qu'il n'y a personne sur la planète qui était immunisé contre ce machin. Voilà, bon, c'est la différence. Mais il faut se rappeler quand même. Qu'il y a 5 millions de gens qui meurent de faim, je ne parle pas de ceux qui souffrent de la faim, il y en a beaucoup plus que ça, c'est une personne sur 10 dans le monde qui est mal nourrie ou qui a faim, qui ne mange pas tous les jours, voilà, ou qui mange qu'une fois par jour légèrement. Là, il y a des enfants, il y a 3 millions d'enfants qui meurent chaque année de faim. Je veux dire, il faut quand même les proportions. Et puis, naturellement, 600 000 Français qui meurent chaque année, tous les ans. Donc, il faut quand même les chiffres, là, garder. Je crois qu'on est parti un petit peu dans une psychose, quoi. Là, avec, les gens qui me disent, oh là là, mais il y a beaucoup de morts. Mais non, c'est un peu plus que d'habitude. C'est comme, voilà, peut-être que ce sera un peu plus qu'une grippe, mais on a déjà connu des trucs comme ça. Bon, voilà, moi, je sais pas, pour le sida, on protégeait, on s'occupait des gens à risque, des populations à risque. Voilà. Pourquoi on n'a pas fait ça, là? Voilà. Pourquoi on n'a pas fait que protéger les personnes à risque? Moi, je comprends pas bien, en fait. Bon. Et puis, bon, c'est l'histoire de refuser la mort aussi. On veut plus mourir. Mourir, c'est mal. Et les gens qui meurent aujourd'hui du Covid, ils meurent dans des conditions, ils voient pas leur famille, ils sont seuls, ils sont... je veux dire, c'est des conditions, c'est lamentable. On veut pas être malade. On veut pas... Bon, ben c'est la vie, la mort, la maladie, mais c'est tous les jours, tout le temps. Nous en montagne, c'est à chaque instant. Ça meurt et ça vit, ça naît, ça bouillonne. Ça, bon, voilà. Si on refuse ça, quelque part on refuse la vie sur la planète. Et bon, ben voilà, on est en train de la massacrer, c'est logique. Bon.
Nous ici, il y a le virus chez nous les humains, le virus, et il y a les soignants. Toi, ta montagne, tes troupeaux, tes prédateurs, mais les soignants, du coup, ce serait qui?
Ben nous, on est soignants aussi. Hein. On prend soin de nos animaux. Hein. C'est vrai que bon, je dis ça, mais bon, c'est vrai que je suis pour sauver une brebis. Ben je vais utiliser des antibiotiques s'il faut, parce que ben voilà, on est. Mais bon, c'est un élevage. Hein. C'est pas des animaux sauvages. Ouais. C'est un élevage. Voilà. Après, nos brebis sont bouffées par des loups. Bon, voilà. Alors les loups, ben moi je leur tire pas dessus, hein. Je suis pas armé, j'aime pas les armes à feu, je suis pas quelqu'un de guerrier, hein. Voilà, je suis pas en guerre contre un virus, mais je suis pas en guerre contre le loup aussi. Bon, on peut faire des comparaisons entre les deux. C'est une sorte de prédateur finalement le virus. Mais bon, voilà, ben on essaie de s'en protéger des loups, on essaye de qu'il y ait le moins de dégâts possible.
Au-delà de guider tes troupeaux, tu les soignes, toi?
Oui, ben les maladies, à chaque fois qu'il y a une bête qui boite, voilà, on fait des séances de soins tous les 3 jours, à peu près, le matin. Ça peut être, et puis plus, s'il y a besoin, ou moins, s'il n'y a pas besoin. Puis des fois, voilà, en gardant, des fois, on passe à côté si la bête était un peu familière, elle sait s'attraper, hop, hop, on a le couteau dans la poche, on a un petit bon, un peu de désinfectant, un peu du poivre, on utilise du poivre contre les asticots, sur les plaies, ça empêche les mouches de pondre, c'est un petit truc, ça empêche du coup d'utiliser des produits un peu nocifs, quoi. Voilà. Il y a des vieux trucs de berger comme ça qui ont été un peu oubliés. Ouais,
Il y a beaucoup de choses qui ont
ouais.
été un peu
Oh oui,
oubliées.
ça c'est vrai, ouais. Et donc, bah, oui, voilà, on s'occupe pour qu'on se démerde. Hein. Une fois, on avait un patou, un chien de protection, qui avait donc une petite égratignure, qui s'était fait des égratignures dans la narine, je ne sais pas comment, et une mouche avait pondu. Et il avait des dizaines, mais enfin, ou peut-être plus que ça, d'asticots dans la narine. Et ce chien, alors il faut savoir que ces chiens de protection, ce n'est pas les nôtres. Ils sont avec le troupeau, ils vivent avec le troupeau depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont nés, ils appartiennent aux éleveurs. Donc nous on arrive, et ça on nous accuse des fois de laisser les chiens, ou même de lancer les chiens de protection contre les touristes pour qu'ils les mordent. C'est juste pas possible, parce que les chiens ils nous obéissent pas. Et des fois, alors il y a des chiens qui sont assez familiers, qu'on peut toucher dès le premier jour, on les caresse, on retient leur nom, et qu'on leur donne à manger, ils deviennent un peu familiers. Mais il y a des chiens, moi une fois il y a un chien, pendant 3 semaines, j'ai pas pu le toucher. Voilà, et le chien qui avait l'asticot dans la narine, et celui-là, je pouvais à peine lui toucher un petit peu le dos quand il passait tout doucement avec ma main, discrètement. J'arrivais à peine à le toucher. Il a fallu que je l'attrape. J'ai fait du judo. J'ai risqué ma vie parce qu'il cherchait à me mordre. Et je me suis retrouvé sur le dos avec le chien sur moi, les pattes en l'air et ma compagne. Alors je dis vite, vite, vas-y. Alors là, on n'a pas bricolé. Elle a pris une bombe insecticide. Hein. Bon, ça c'est voilà. On avait ça en secours qui restait dans un cabanon d'ailleurs de l'année d'avant, elle lui a foutu un coup de bombe d'insecticide dans le naseau. J'ai lâché le chien et bon, les asticots sont morts. Mais là, on est à 3 heures de marche de la première route, de la première piste. Vous voyez, il faut qu'on se démerde. On a un chien qui est quasiment inattrapable. Et si je ne l'avais pas attrapé, ben ça continuait à rentrer dans le crâne du chien, dans l'intérieur du chien. Il se faisait bouffer, il allait mourir, ce chien. Et il finissait par mourir. Voilà, donc on est confronté à des trucs un peu rudes, des fois. Voilà. Et donc c'est pour ça que voilà, quand je vois un virus qui est dangereux pour des gens très âgés et fragiles, bon, ben moi, pour moi, c'est faut pas mobiliser des moyens énormes pour partir en guerre contre ça. C'est démesuré. C'est juste un peu démesuré. Voilà. Je reviens. C'est vrai qu'on est un peu obsédé par cette histoire bon, en permanence ici, en ville encore plus. Moi, j'entends parler de ça en permanence. Et donc, ben, voilà, ben, je reviens à ça. Bon.
Donc, toi, en ce moment, tu es où? Ton troupeau est où?
Ah, mais les troupeaux, ils sont chez leur propriétaire, et dans des prairies. Donc là, elles ont fait l'agneau. La plupart, elles sont avec des agneaux. Elles sortent dehors depuis quelques semaines déjà, parce qu'il fait bon. L'herbe a un peu poussé. Ça manque un peu d'eau, mais bon.
Et tu es
Elles
bien
mangent
où?
des prairies. Et puis après, moi, je vais venir. Quand je vais arriver dans 15 jours, on part sur des collines gérées par l'ONF, très assez boisées. Ou à 1000 mètres, 1200 mètres, 1500 mètres d'altitude, on monte petit à petit. Et arrivé au. Il y a plusieurs quartiers, on se déplace en caravane, là. Donc voilà, c'est un peu camping, simple. Je prends peu d'affaires, j'en laisse chez mon éleveur. Et il y a une partie qui est héliportée, qui est héliportée. Et donc après, en juillet, on monte dans les quartiers à 2000 mètres d'altitude et 2000, 2500 mètres. Et là, voilà, là, c'est un autre truc. On est très isolé, on est loin de tout, on est sur les hauteurs, c'est magnifique. C'est le paradis. C'est parfois l'enfer quand il y a le mauvais temps et qu'on est dehors ou qu'il y a des loups des cadavres et voilà. Mais c'est quand même un peu le paradis quand même.
Tout change tout le temps d'endroit.
Oui, c'est ben on change des endroits, on change d'endroit en fonction de l'herbe. Mais c'est-à-dire que bon, cet été on aura 1600 brebis, mais c'est pas un énorme troupeau. Je pensais dans la moyenne un peu des troupeaux d'alpage, 1600, 1500, 1600. Et ben, ça a besoin de beaucoup d'espace hein, pour manger. Donc en fait, si on restait toujours au même endroit, il faudrait se taper des trajets énormes. Donc en fait, on change. Il y a des quartiers, on change de quartier. Quand un quartier a été mangé, on va ailleurs. Et donc c'est souvent il y a plusieurs, il y a deux, trois, quatre cabanes. Et puis des fois on est en caravane avant au mois de mai, juin, voilà, ou l'hiver aussi. On déplace la caravane sur des.
Du coup, il y a vraiment que toi, tes chiens, tes bêtes.
Voilà, sauf qu'on est maintenant on est de plus en plus deux en fait. Hein, on travaille de plus en plus à deux, à cause ou grâce au loup. Moi, je dis grâce au loup, parce que je suis plutôt content. Moi, j'ai rarement été seul, hein. J'ai été avec des compagnes. Et puis maintenant, je suis avec voilà, je forme un peu la jeunesse. Je recrute des jeunes qui débutent, enfin jeunes ou moins jeunes, mais qui veulent apprendre le métier. Et donc, oui, moi j'apprécie vraiment, et j'ai plus de capacité aussi sociale à partager la vie. C'est pas évident, parce qu'il y a l'intimité aussi. On est dans des petites cabanes qui sont pas forcément adaptées à deux personnes, vu que pendant très longtemps, il n'y avait qu'un berger ou une bergère. Il y a beaucoup de bergères aussi, hein, attention, on parle de bergers, mais on est peut-être à plus de 50% de bergères maintenant. Hein. Beaucoup,
Ah
beaucoup,
ouais.
énormément de bergères. Il n'y a pas de statistiques, mais bon, dans notre association, oui, je vois, il y a 70% de bergères qui reçoivent notre bulletin. Mais voilà, je pense que c'est plutôt. Mais il y a au moins 50% de bergères. Ouais. Et elles sont très appréciées, les bergères. Voilà. Souvent, elles sont plus régulières. Les éleveurs disys, oui, bon, quand on va voir le troupeau, on a beaucoup plus de chances de tomber sur la bergère parce qu'elle n'est pas au bistrot. Bon, c'est un peu exagéré, mais non, mais par contre, c'est vrai que nous, on a tendance peut-être des fois à se mettre plus loin aussi, à se mettre plus ouais, sur une crête, un peu plus à distance. Bon, et les bergères ont tendance, oh, bon, faut pas généraliser non plus, mais à être plus proche physiquement du troupeau. Voilà. Et elles sont très, voilà, très, très, très fiables, souvent. Voilà. Bon, après, voilà, y a de tout, hein. Faut pas non plus caricaturer, mais elles ont bonne réputation. Voilà. Et elles sont aussi bien payées, enfin, je crois, il n'y a pas de statistiques, hein, mais en principe, peut-être après que les employeurs abusent plus de gens timides, et alors des femmes, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, question salaire, bon, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'avec les éleveurs, bon. Voilà. On a des conventions collectives maintenant de plus en plus, hein, mais beaucoup de bergers
Ouais.
ne les connaissent pas. Et bon, il y a un peu des abus.
Ouais, mais parce qu'au final, dans l'élevage, de l'élevage au gardiennage, même ces éleveurs qui te payent, toi, les éleveurs à l'heure actuelle sont en galère eux-mêmes.
Depuis qu'il y a des loups. Et il y a eu beaucoup d'argent enfin, certains disent pour favoriser le loup, mais pour indemniser, disons, on peut dire aussi les conséquences négatives, nos salaires sont remboursés à 80%, alors parfois avec pas mal de retard, hein, des fois c'est un an et demi, où il y a, bon, et des fois il y a, voilà, bon, c'est pour démarrer, disons, après leur trésorerie, voilà, ça roule, chaque année ils se font rembourser de 2 ans avant, bon, peut-être, mais bon, voilà, c'est au début, c'est un peu difficile. Parfois pour certains, mais sinon ils sont remboursés à 80% sur nos salaires. Ça vient de l'Europe via notre ministre de l'Agriculture et de l'Environnement. Donc en fait, on est un peu des salariés, nous, pour protéger donc une partie de notre boulot, c'est de protéger les brebis des loups. Et on est un petit peu fonctionnaire quelque part par intermédiaire. Donc voilà, c'est pour ça aussi que nous, moi ça me fait râler quand les mecs ils font des économies sur nos salaires. Alors qu'ils sont remboursés à 80% quand même. Donc voilà, et ils ont énormément de subventions. Hein. C'est pour ça qu'ils font des groupements pastoraux aussi. À partir de 3, ils ont énormément pour le matériel, pour les clôtures, pour les chiens de protection. Les croquettes sont payées. Énormément de choses sont payées. Voilà.
Et donc, ce qui prouve que les dirigeants sont quand même au courant que tu es assez essentiel à tout.
Alors maintenant les gens ils disent faut pas tuer les animaux, faut pas manger de la viande, mais alors faut pas d'élevage. Alors il y a beaucoup de oui il y a des associations d'écolos, il y a des responsables qui disent voilà l'élevage en fait c'est pas indispensable, on s'en passerait. Et ben alors là on va le regretter amèrement, amèrement. Là où il n'y a pas de troupeau, c'est le ben d'abord c'est les broussailles qui envahissent, on pénètre plus. Et on parle de biodiversité aussi, que la brebis serait pas bon pour la biodiversité, mais c'est exactement l'inverse. Il y a eu des études scientifiques dans le passé qui ont été faites là-dessus. Grâce aux brebis, il y a de la variété. Elles maintiennent des petits sentiers, des petits passages de partout. Même les fourmis, elles adorent. Ouais, ça fait du jour. Ben, c'est comme les éléphants dans la brousse. Ils font l'impression qu'ils font des énormes dégâts, des énormes trouées dans la jungle, là. Mais ça fait rentrer la lumière. Il y a de la végétation différente, du coup, qui a besoin de lumière, des petites plantes. Ça fait une variété. Et voilà, pour les insectes. Et s'il y a des insectes, les oiseaux aussi, ils sont contents. Enfin, il y a toute une. Voilà, les animaux, mais après, ça dépend de la gestion. C'est vrai que trop de brebis pendant trop longtemps, comme ou des vaches, ou bon, au même endroit, ou des chevaux, ça finit par faire des gros dégâts, bien sûr. C'est pour ça qu'on se déplace, nous, d'un quartier à l'autre. Puis on a hop, on déplace notre caravane, on change de cabane. Voilà, on fait pas de surpâturage. Le surpâturage est très rare, contrairement à ce que disent certains. Voilà. Non, non, la brebis, c'est. Et alors après, pour nous, humains, faut se rendre compte. Je veux dire, nos vêtements, ils vont pas toujours venir de Chine. Mais je veux dire, la laine des brebis, mais un jour, on va en avoir vraiment besoin pour pas avoir froid, pour pas se les geler. Faut pas croire que le commerce mondial, il va continuer comme ça éternellement, avec le pétrole, la volonté et compagnie. Bon, et puis c'est le cuir aussi. Donc avec le cuir, on peut faire énormément de choses. Hein, voilà, des godasses, des chapeaux, des voilà. Bon, et puis bon, sans parler des os, sans parler de la graisse pour des bougies. Enfin, on peut faire énormément de choses. Et maintenant, maintenant, on a conscience tout le monde a conscience de plus en plus. Il faut se remettre à retrouver une autonomie locale, à se débrouiller dans notre région. Il faut pas attendre que tout vienne d'Argentine ou de Chine. Ou de Perpète. Voilà, on a la chance en France, on a une terre qui est fertile, c'est très varié, on peut vivre avec ce qu'il y a autour de nous. Et voilà, mais on a oublié ça. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui c'est aujourd'hui faire des vêtements avec de la laine de nos brebis. La laine de nos brebis, elle est bradée, elle est envoyée dans d'autres pays, ça fait des matelas. Il y en a qui la brûlent, il y en a qui brûlent leur laine tellement ça vaut pas cher, ça vaut même pas le coup de le foutre dans le camion, de se déplacer pour aller la vendre. Donc là, on marche sur la tête. On achète des vêtements qui viennent de Chine, qui traversent la moitié de la planète, et notre laine de nos brebis, des fois, finit sur du fumier, sur du compost. Moi, ça veut, c'est tout ça, on marche sur la tête. Voilà. Mais il y a dans notre région, dans le Diois, il y a de plus en plus de gens, il y a plusieurs personnes qui se remettent à travailler la laine, ça c'est chouette, et le cuir. Je connais un éleveur qui avec sa laine, alors lui, il l'envoie donc à Longomaille, donc qui est un peu plus dans le sud, une communauté qui travaille la laine. Ça lui revient en veste. Il vend des vestes avec la laine de ses brebis, mais il vend de la laine aussi directement après la tonte. Il la trie. Il y a un tri spécial de qualité. Il y a des gens qui viennent chez lui et qui repartent avec la laine et qui travaillent la laine. Donc c'est vrai que lui, il connaît voilà, un peu le réseau d'Iwa, des gens qui travaillent la laine. Ouais. Donc là, je peux. Oui, Vincent Ducommet, à Barnave. C'est lui qui m'aide à. Il est aussi éducateur canin. Il m'aide à éduquer en ce moment ma jeune chienne. Voilà, j'y retourne la semaine prochaine.
Toi, quand tu pars pour regarder tes brebis, tu dis que tu fais plusieurs cabanes. Mais ça veut dire que tu pars combien de temps?
Les quartiers, ça dure en général entre 3 semaines et 1 mois et demi. Alors là, c'est un petit peu aussi. Alors là, par contre, à 2000 mètres, on sera sur une cabane, sur un quartier, pendant 3 mois. Voilà. C'est pas très fréquent, mais bon, ça dépend vraiment. Hein. Parce que la cabane est assez centrale, et donc, du coup, il y a beaucoup d'espace au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Donc, c'est un quartier, on peut rester longtemps, on reste 3 mois. Ouais, mais après, c'est très variable, ça peut être 2 mois, 1 mois, 3 semaines. Et après, c'est un déménagement. On déménage, on change de quartier, on va dans un autre quartier pour 1 mois, pour 2 mois ou pour 3 mois. Et tout le monde déménage. Brebis, bergers, chiens, voilà. C'est comme si, ben, toi, tu déménages de cet appartement, pendant 3 mois, tu vas dans un autre appartement. Voilà. Ça dépend de la ressource fourragère, enfin, de la quantité d'herbe qu'il y a à manger. Et voilà.
Dans le fond, ça me fait rêver en vérité. D'un côté, je.